Merci d'être là ce soir. Merci évidemment à Sophie d'avoir accepté notre invitation. On est particulièrement heureux, fiers, honorés de sa présence. Depuis 15 ans, Sophie Delay interroge le logement, l'habitat. Elle défie les contraintes financières, réglementaires pour offrir à ceux qui vont habiter demain des espaces de liberté. Merci à elle, merci à tous. Bonne soirée.
Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce jour où on sent que le Covid commence à fermer un peu les salles. J'imagine qu'il y a... Voilà, merci à mes amis architectes, mes amis enseignants, il y a des étudiants, j'imagine. La conférence de Jacques Lucan la semaine dernière, Jacques a dédié sa conférence à Odile Seller, j'ai trouvé ça magnifique. Et je profite de cette conférence pour la dédier à tous ceux qui ont travaillé à l'agence et tous ceux qui travaillent aujourd'hui à l'agence, parce qu'ils contribuent à ce travail. Alors, espace de liberté, vaste sujet. Je ne vais pas vous en parler, je vais pas vous parler de liberté, parce que je ne suis pas philosophe, et puis ce serait peut-être un peu présomptueux. En revanche, je vais vous en parler au travers de l'architecture. Je pense que dans le temps dans lequel nous sommes et confrontés aux contraintes que nous avons, cette question est vraiment centrale dans notre pratique. Et puis c'est bien sûr la liberté que l'on souhaite offrir aux habitants dont je vais vous parler. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'intéresse en architecture... Alors, il faut que je passe les slides. Voilà. Moi, c'est ça. Ça, c'est quand le vivant prend le dessus, quand on peut dire que l'architecture n'est presque plus là, en tout cas elle s'efface au profit de cette manifestation. En l'occurrence, vous reconnaissez tous le musée d'art de Sao Paulo, de Lina Bobardi. Cette photo, c'est une photo d'architecture que je trouve magnifique parce que finalement, elle place au centre cette foule. Et on pourrait penser que cette architecture, finalement... On pourrait penser que l'architecte, pour faire ça, pour produire ça, aurait à s'effacer, à proposer une forme de neutralité, en tout cas être en arrière-plan. Et ce que nous dit Lina Bobardi, qui est magnifique, c'est ça, c'est que non, peut-être qu'il faut au contraire agir fortement, agir avec générosité, et que cette force et cette générosité, ben, ça peut produire des choses comme ça. Alors, on n'est pas dans la même situation que Lina Bobardi à l'agence, parce qu'on n'a pas des programmes de telle dimension. On travaille, et c'est un choix, depuis quelques années, on s'attelle exclusivement à la question de l'habitat, parce que c'est un sujet qui tisse des liens très forts entre la question de l'espace et la question sociétale, et c'est ce qui m'intéresse. Et finalement, à l'agence, on travaille sur, non pas sur des immenses salles extraordinaires avec des petites salles servantes, mais on travaille sur... Une matière un peu faible, une matière constituée de choses très simples, très ordinaires, avec des dimensions très petites, qu'on essaye de combiner de manière à établir de très grandes dimensions. Et parfois, je compare notre activité à celle des brodeuses. Et toute la complexité du travail, sûrement ceux qui le pratiquent ou ceux qui l'étudient à l'école le savent, tout le travail combinatoire est fondamentale dans la question du travail sur le logement. Et toute notre attention est portée sur le fait de prendre du recul constamment, c'est-à-dire de s'assurer que petit point par petit point, je pense qu'à l'agence, ils voient très bien de quoi je parle, petit point par petit point, on assure toujours le motif, le grand motif qu'on est en train de construire, qu'on ne se perd pas dans ce détail-là. Et qu'on continue à élaborer un motif qui dépasse notre petite action. Alors, travailler sur le logement, c'est aussi regarder le monde à partir de l'intérieur. Pour moi, le logement, c'est un prétexte, en fait, finalement. C'est un prétexte pour regarder le monde autrement, pour regarder la ville autrement, pour regarder la société autrement. Et j'imagine que lors des premières leçons d'anatomie, on devait ressortir de ces leçons avec une vision nouvelle du corps humain, que cette visite du corps depuis l'intérieur permettait de changer le regard sur l'extérieur. Et j'imagine que travailler sur le logement, c'est aussi prendre un autre point de vue sur la société, un autre point de vue sur l'architecture, un autre point de vue sur la ville. Et c'est ce qui m'intéresse. Je montre ici un travail. Bon, moi, j'enseigne à l'école d'architecture de Versailles. Et je travaille avec Raphaël Ondelat depuis, j'imagine qu'elle est là, depuis quelques années. Donc, on travaille sur la question de l'habitat. On a un atelier qui s'appelle Étrange-Étranger. Et je coordonne aussi la première année. La première année, premier semestre, c'est-à-dire par quoi on commence? Comment est-ce qu'on commence l'architecture? Et finalement, les étudiants arrivent à l'école, donc ils vont découvrir le territoire de Versailles. Donc on commence par la très grande dimension, mais on commence avec des coupes. Des coupes, c'est quoi la coupe? C'est une manière de révéler l'invisible, en tout cas de plonger dans le territoire, dans ses entrailles, et de percevoir ce qui passe à l'intérieur de cette ville. Et c'est peut-être un point de vue singulier qui leur est proposé. Chaque année, on propose à un collectif ou à des artistes de partager, de co-écrire ce sujet. Et cette année-là, on avait invité Terraforma et on avait formé à partir des coupes, on avait extrapolé l'exercice des coupes avec ces cosmogonies. Vous voyez ces grands cercles, en fait, c'est une extrapolation de la coupe qui est déroulée pour dévoiler tout l'espace qui en entoure. Et ce qui est assez joli, c'est que la Terre n'est pas au centre, mais autour. Et le ciel est au centre. Donc, vous voyez, c'est un grand déroulé. Et c'est un point de vue sur Versailles qui se fait. On n'est pas sur la Terre, mais on est dans un monde. On est à l'intérieur d'eux. Et peut-être que habiter, c'est au-delà d'habiter le logement, c'est aussi ce regard-là qu'on peut avoir. Et finalement, Versailles, on pourrait en faire un portrait d'une multitude de cosmogonies, de petites situations précises et habitées. L'habitat, c'est regarder depuis l'intérieur, mais c'est aussi la question de l'attachement. Ici, on avait proposé aux étudiants de nous ramener 5 ou 6 dessins de leur territoire d'attachement. Habiter, ce n'est pas habiter exclusivement son logement, c'est d'autres logements. C'est habiter avec la grand-mère chez qui je fais Noël, c'est habiter avec cette rivière où je pêche avec mes amis, c'est habiter ce lieu où je suis tombée amoureuse. C'est tous ces lieux-là, en fait, participe de la question de l'habitat. Et peut-être que ça désacralise aussi ce que je vous ai montré de Lina Bobardi, et ça dit aussi que la vie est probablement plus forte et plus libre, en fait, que l'architecture. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait, ça veut juste dire qu'il faut composer avec cela. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà les les territoires d'attachement. Donc ça, c'est le portrait de la promotion, finalement. Alors, à l'agence, on travaille à partir de 5 axes, 5 thèmes, je ne sais pas bien comment les appeler. Ils ont ces noms-là aujourd'hui, il y en a d'autres qui apparaissent. Ça peut changer, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Je vais faire une conférence en 5 parties. On va parler des partages, des protocoles, des évolutivités, des motifs et des interprétations. Voilà, plutôt que de vous montrer, de vous parler de projet, je vais plutôt faire un espèce de forage, en fait, à travers la production de l'agence, à travers ces différents thèmes, et je vais les illustrer à travers les projets. Alors, les partages. Un joli mot que partage. Je crois que les lignes de partage, c'est l'affaire des architectes. Les lignes de partage, c'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, c'est ce qui sépare le public du privé. Les lignes de partage, c'est l'affaire du quotidien. Dès qu'on trace une ligne, on sépare les choses. Et pourtant, le mot partage, il a 2 sens qui sont assez beaux. Évidemment, il y a le partage qui sépare. On fait des parts dans un gâteau, on partage un gâteau. Et en même temps, le partage, c'est aussi ce qui relie, puisqu'on peut partager un gâteau tous ensemble. Et il n'est pas d'architecture sans que l'on ne brise ces lignes, c'est-à-dire sans que l'on ne fasse de fenêtres, de portes, bah, tout simplement parce que sinon on ne peut pas rentrer dans l'architecture, donc elle n'existe pas, on ne peut pas en sortir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ces lieux-là, ces moments de rapport, de rapprochement, ces moments de lien. En tout cas, c'est dans le lien qu'on a envie de travailler et pas dans la séparation. Et c'est vrai que les programmes que l'on reçoit aujourd'hui sont composés de sommes de parties, c'est-à-dire qu'on nous fait un programme qui comprend toutes les parties, toutes les divisions du programme, mais jamais ce qui les relie. Et donc nous, on s'attelle à cette tâche. Voilà, dans le livre de l'agence, on a des projets qui se font face et qui parlent toujours de des lieux que l'on offre et qui ne sont pas prévus dans le programme. Premier projet qui illustre ça, c'est Machu Picchu à Lille, que vous connaissez peut-être, mais dont je vais vous parler à travers cet axe. Pour des raisons urbaines, on a construit plus haut que ne le prévoyait la fiche urbaine. Et on s'est rendu compte que finalement, dans ce quartier qui était très très bas, c'est à Lille, dans un quartier ouvrier, eh ben, on allait pouvoir habiter au-delà des toits. On allait pouvoir, certains logements en tout cas, allaient pouvoir avoir un immense panorama. Et à l'agence, on a un peu une petite règle toute simple, hein, mais qui dit que toutes les situations privilégiées, on les met en partage pour l'ensemble des habitants. Voilà, donc en l'occurrence, ici, c'est l'extrémité, la grande terrasse panoramique au sud. Voilà, donc on a fait, plutôt qu'un bâtiment de dimension intermédiaire, on a fait un petit bâtiment et un grand bâtiment. Et dans ce grand bâtiment, on a niché des trous, puisqu'en fait, on a construit plus haut que prévu, puisque la fiche de l'eau ne prévoyait pas cette hauteur. Et donc, plutôt, on avait trop de logements. On ne pouvait pas construire autant de logements réglementairement parlant. Donc, plutôt que d'enlever le dernier étage, on a décidé d'enlever un logement par étage pour constituer des trous, en fait, dans cet immeuble. Et puis, on a fait plusieurs hypothèses jusqu'à la dernière, celle-ci. Je ne sais pas si on voit ma souris, non. Jusqu'à celle qui est en bas à gauche, qui est une espèce de grande rue intérieure diagonale, un grand emmarchement qui traverse toutes les entrailles de l'immeuble et qui permet depuis le jardin central d'accéder à cette grande terrasse panoramique. Donc chaque niveau est connecté à ce grand emmarchement commun. Voilà, donc là, toute la ribambelle d'espace. Voilà, donc tout le projet s'organise dans toutes les décisions qui sont faites tout le temps de la conception pour mettre en place ce grand espace commun, donc qui est un espace de plein air, hein, on pourrait dire c'est des grands porches connectés les uns aux autres, ce qui est pas mal parce que je peux le dire parce que je suis lilloise, mais c'est vrai qu'à Lille, il pleut souvent, donc le jardin n'est pas très utilisé. Donc là, c'est un espèce d'espace extérieur commun qui connecte, comme un petit village en fait, les coursives les unes aux autres. Et vous voyez que les coursives, elles sont alternées, pour d'autres raisons, pour éviter qu'il y ait un côté coursive et un côté non coursive, un avant et un arrière. Là, le bâtiment est panoramique, donc il montre toutes ses faces. Et les coursives sont alternées, donc de ce côté-ci, on a les coursives tous les niveaux pairs, alors que de l'autre côté, on a tous les niveaux impairs. Et cette balade, en fait, à chaque fois, elle connecte une coursive à une autre d'un autre étage. Voilà, je ne vais pas parler de ça, mais ce sont des grands espaces partagés qu'on a programmés. C'est comme un petit équipement, en fait, au milieu de l'immeuble. Donc, on a des prises, des sanitaires, on a des rangements, etc. Donc, il prend pied dans le jardin, au centre. Voilà, on monte. Et puis on découvre la ville. L'idée, c'était ça aussi, c'était que on habite au-delà de l'enveloppe de son propre logement. On habite avec le paysage, on habite avec la ville. Ici, c'était une surprise du chantier avec un clocher. Et puis comme les coursives sont alternées, les séjours sont en balcon sur les coursives. Donc c'est aussi des relations entre niveaux qui se font. Voilà, et puis le grand panorama que personne n'a dans le quartier, puisque toutes les maisons sont très, très, très petites. En fait, les seules émergences de ce quartier sont des usines, des grandes usines, ou des salles des fêtes, comme la salle des fêtes voisine qui fait qu'on est monté si haut, ou des églises, etc. Donc, jamais d'habitants. Voilà pourquoi on a mis ça en partage, pour profiter de ce privilège. Deuxième thème, c'est les protocoles. Alors, les protocoles, en fait, ce sont les protocoles de projet. C'est-à-dire que quand on travaille sur le projet, à un moment donné, on prend une grande décision qui prime, en fait, sur toutes les autres. Et cette grande décision, elle va toujours au-delà, justement, à la recherche de ce qui n'est pas dans le programme, mais qui pourrait tout souder, en fait. Tout ce qui est dans le programme pourrait être relatif à cette décision, souvent à propos de partage. Et puis, c'est aussi une manière de changer la question, ou plutôt changer... Moi, ce qui m'intéresse parfois, c'est de changer la manière de faire, parce que si on fait les choses avec les mêmes outils, toujours, je pense qu'on fabrique les mêmes formes. Donc si on travaille toujours de la même manière, on produit toujours les mêmes projets, donc parce qu'on s'ennuierait sinon, et puis par intérêt pour l'idée d'ouvrir des voies et de chercher, en fait, pour chercher autrement, parfois on cherche d'autres méthodes de travail. Vous voyez ici John Cage avec son piano arrangé, qui recherche, j'imagine... une manière d'étendre la perspective de son travail autour de la musique. Voilà, donc ça peut être des panoramas partagés, ça peut être des vues spécifiques, diagonales, comme ces maisons. Ça peut être des grands espaces publics ou des projets en feuilletage pour habiter tous ensemble, mais différemment. Ou ça peut être un découpage aussi en pièces, ce que je vais vous présenter ici. Ce projet que vous connaissez sûrement, c'est un projet à Dijon de, non pas 40 logements, mais de 240 pièces. Et justement, c'était ça le protocole. C'était de se dire qu'il fallait essayer de ne jamais réfléchir à l'échelle du logement. Ne jamais prononcer le mot logement, presque. Et on a... Pour sortir de nos habitudes, parce qu'en fait c'est hyper standardisé, hyper normalisé, on a beaucoup d'habitudes tous les uns les autres avec ça, nous dans notre manière de travail, mais aussi autour de nous, les choses sont très préconçues. Donc on a découpé le programme, on l'a mis en pièces, et on s'est attelé à travailler sur la pièce, et sur la pièce intime et la pièce urbaine à la fois, c'est-à-dire sur la plus petite dimension du logement et sur la plus grande dimension du logement, pour pouvoir tendre en fait cette qualité d'habitat entre le plus petit et le plus grand. Donc vous voyez ici à droite, donc ça c'est le protocole, le découpage ou la conversion, on va dire, du programme en pièces égales. Elles sont égales, elles sont carrées, elles font 3,60 m de côté, et chaque typologie du programme a été convertie en se disant deux pièces... Une pièce carrée de 3,60 de côté, ça fait 13 mètres carrés. Donc deux pièces, c'est un séjour. Une pièce, c'est une chambre. Ça, si on fait une conversion traditionnelle. Mais les habitants, eux, ils pourront habiter très librement dans cette collection de pièces, puisqu'elles n'auront pas été prédestinées. Ce sont des pièces qui sont désassignées, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'intérêt dans ce travail-là, c'est de se dire que l'habitant n'est pas assujetti à faire telle chose à tel endroit. L'idée, c'est de libérer... plein de possibilités. Donc il y a des pièces carrées, et puis il y a des demi-pièces qui sont, elles, figées. Ce sont les pièces un peu techniques, cuisine et salle de bain. Le logement, on va dire, de base, à partir duquel tous les autres s'organisent, c'est celui-ci. Donc c'est quatre pièces, une pièce centrale, deux pièces latérales, une autre ici, une pièce extérieure qui est soit une terrasse, soit une loggia, et puis les deux demi-pièces dont je vous ai parlé, cuisine et salle de bain. Elles sont connectables et déconnectables les unes des autres grâce à des grands coulissants en bois que vous voyez ici et qui peuvent s'ouvrir à volo pour former des doubles pièces, des triples pièces, des simples pièces, etc. Voilà, ici, c'est la loggia, donc avec toujours la petite cuisine latérale, qui est donc toujours ventilée et éclairée naturellement. Et puis la connexion aussi, en plus, à la pièce latérale. Donc ça, ce sont les terrasses. Si on a fait des petits tests, mais ce qui est bien, c'est comme je vous l'ai dit, la vie est plus forte que les projets. Donc là, on a essayé de réfléchir de manière un peu conventionnelle pour expliquer déjà, à partir d'une famille un peu conventionnelle, d'un couple et un enfant, à notre maître d'ouvrage, comment ça pouvait être occupé. Et donc, dans ce même logement, on peut habiter avec les deux pièces, de part et d'autre, pour former un séjour, salle à manger, loggia, traversant. On peut aussi les disposer en diagonale. Ça, c'est pour moi la plus belle, parce qu'en fait, le séjour et la loggia franchissent la plus grande longueur. Donc, c'est une dimension spatiale qui est généreuse. Ou alors, la manière la plus conventionnelle encore, une configuration où on groupe séjour et loggia d'un côté. Voilà, donc vous avez ici les trois vues, avec à gauche le séjour traversant, au milieu diagonal et groupé à droite. Voilà, mais en fait, ce n'est pas un séjour avec deux chambres forcément, parce que rien que dans une journée, en fait, on peut habiter un logement. Ce sont des séjours, ce sont des petits séjours. Et en fait, ces séjours, ils peuvent muter, même si on habite... Là, j'ai pris la version la plus conventionnelle, avec les deux chambres d'un côté. On peut dire que le premier, en haut à gauche, c'est comme ça qu'on peut le décrire à notre maître d'ouvrage, mais on sait aussi que dans la journée, il peut y avoir 5 séjours isolés, que chacun est dans son espace, que ça peut être un grand espace ouvert, je sais pas, un grand repas le dimanche, mais aussi que... Par exemple, quand les enfants sont rentrés de l'école, les parents ne sont pas encore là, ben ils ont leur propre séjour entre leur chambre et le coin repas, par exemple, pour le goûter. Ou que le soir, il y en a un qui regarde, qui est dans le séjour, tout seul, ou je ne sais pas, il regarde la télé, et puis l'autre a ouvert sa chambre sur le séjour pour être plus libre. Et puis aussi, la porte latérale que je vous ai montrée tout à l'heure sur la loggia, elle permet... Il y a certains logements où on peut rentrer directement par l'espace extérieur, par la loggia ou par la terrasse. Et donc, il y a une des pièces qui peut même être déconnectée pendant la journée pour travailler chez soi, par exemple. Ce que vous voyez à droite, voilà. C'est-à-dire qu'on peut rentrer directement, on a deux portes au logement, on peut rentrer directement dans son bureau, on peut rentrer dans le logement, et puis le soir, réouvrir la porte et profiter du grand espace. On peut aussi être non pas un couple et un enfant, mais être trois personnes pour un coworking ou un co-living, par exemple, avec des chambres et puis une pièce partagée au centre. Voilà, tout ça, toutes ces pièces se combinent pour former, je crois, 18 typologies différentes. Et elles sont toutes rangées dans une grande structure de poteaux dalles, donc petites, sans poutraison, puisqu'on est à 3,60 m d'anthraxe. Et ce que vous voyez là, c'est que les rangements, en fait, qui traditionnellement sont placés au fond des pièces, c'est-à-dire, en fait, j'ai un petit pointeur ou pas ? Parce que j'arrive pas à montrer les... C'est pas grave. Les rangements qui devraient être au centre du plan gênaient la fluidité de l'espace, c'est-à-dire qu'elle donnait de l'épaisseur entre la pièce centrale et les pièces latérales. Donc c'était un inconvénient, parce que nous on voulait un plan très fluide où les pièces pouvaient aussi s'accoupler, s'assembler. Et donc on a déplacé ces rangements pour les flanquer contre les façades, ce que vous voyez autour et au centre, deux épaisseurs de rangements. En fait, chaque pièce est organisée de telle manière à ce qu'elle puisse devenir une chambre ou un séjour. Donc il y a autant de prises électriques, etc., mais il y a aussi du rangement dans chaque pièce. Ici, vous voyez les deux portes latérales des penderies, un coffre en dessous, une lumière au-dessus. Et ici, c'est un grand coulissant avec un garde-corps intérieur souple qui est un peu comme un hamac sur lequel on peut s'adosser. Ça, c'est côté jardin. Donc cette décision-là, qui vient du plan, a déterminé aussi le principe de façade. Et puis côté ville, on a décidé de ne pas mettre ce banc pour avoir deux portes latérales et dégager les cloisonnements côté pièce de telle manière à ce qu'ils puissent être meublés différemment. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, c'est une collection de pièces de taille identique, mais qu'elles sont toutes différentes par leurs relations les unes par rapport aux autres, par rapport à leur relation à l'extérieur, par rapport à leur taille de fenêtre, etc. Et ça, c'est un lieu qui est assez magique, que j'aime beaucoup, parce qu'on avait dit qu'on ferait un projet de plein de, taille, de pièces de taille identique, puis finalement, il y a un mini-espace qui s'est glissé dedans, qui est ces 2 mètres carrés au sol, qui est une espèce de cachette, puisqu'on peut y rentrer et fermer le rideau derrière soi, et se retrouver seul chez soi, mais en ville. Et ça, c'est assez, c'est une, presque un petit exercice lié à la, cette condition où, en fait, chez soi, on peut être avec le monde grâce au mail, avec Facebook, etc. On a une autre relation, en tout cas, où le commun, c'est-à-dire la famille, le foyer, n'est pas entre le privé et le public. Voilà, donc la loggia à gauche, vous êtes dans la pièce centrale. Et sur la pièce urbaine, donc on faisait 2 travaux parallèles, hein, celui sur la pièce, c'est parallèlement ça. On est dans une situation où on se trouve entre des petites maisons pavillonnaires et des grands collectifs futurs. À l'époque, on était le premier des bâtiments à sortir de terre. Et donc, on a imaginé, hein, avec cette pièce, un grand gradinage. Cette pièce nous a servi à créer une seule et unique forme, mais ciselée, donc qui peut dialoguer avec la petite échelle des maisons voisines. Et dans une seule et unique forme, ça c'est un peu la promesse qu'on avait depuis le départ en choisissant de faire ce grand gradin, on savait qu'on allait pouvoir faire des logements accessibles directement au rez-de-chaussée qui sont vécus comme des maisons, mais aussi des logements accessibles depuis un escalier groupé par 2. Et puis au milieu du gradin, on a des logements, 6-7 logements accessibles par escalier. Puis au centre, tout en haut, on est plutôt dans un collectif accessible par ascenseur. Voilà, et on entre tous dans le jardin commun par le grand porche que vous voyez là, tout au fond. Donc là, c'était l'ambiance intérieure. L'extérieur, vous voyez les fenêtres qui sont ici plus verticales, c'est les fenêtres avec le grand rideau. Et puis à l'angle du bâtiment, on découvre, je ne vous ai pas montré dans notre page de protocole avec la conversion en pièces, mais on a réservé 10 de pièces pour faire dans le budget, pour faire un espace partagé à l'adresse de tous les habitants. Donc on a mis là parce qu'il est dans une situation très belle par rapport aux arbres du quartier et qu'il est accessible depuis le grand porche commun. Alors, 3e chapitre, évolutivité. Ben, l'évolutivité, pourquoi l'évolutivité ? Ben, pour que les habitants puissent rester chez eux lorsque la vie change, en fait, hein, pour que aussi des foyers puissent se succéder, hein, dans le temps du bâtiment. En fait, pour parler du logement, naturellement, on est obligé de parler de la société. Et ce petit schéma de Riken Yamamoto, je l'aime beaucoup parce qu'il dit très simplement... Il montre à quel point la société change et change vite, puisque ça part de 1960 à aujourd'hui, et montre à quel point il est question de densité, qu'on est de plus en plus sur Terre, et que cette densité, c'est notre nouvelle condition d'habiter. Et donc il faut se poser la question, quel pourrait être l'avantage à habiter tous si densément les uns après des autres, sur les autres, à côté des autres. Première chose, donc cette densité, mais aussi on voit que c'est difficile aujourd'hui de faire un portrait de la société actuelle, et peut-être on pourrait dire que la société s'atomise. C'est dessiné un peu de manière caricaturale, mais quelque part chaque vous voyez les foyers assez conventionnels, enfin en tout cas dans la représentation qu'on s'en fait de parents et enfants avec les grands-parents. Il y a 3 âges à l'époque. Aujourd'hui, il y a 5 âges. Et chaque membre des foyers a une vie plus ou moins indépendante. Il y a des enfants qui habitent deux logements différents. Il y a les grands-parents qui rentrent chez les enfants, etc. En tout cas, tout est révolu. On ne peut plus penser à partir des mêmes modèles. Et je cherche ce que je voulais dire. Et voilà, peut-être que c'est une chance en fait pour nous architectes. C'est une chance parce que voilà, les modèles, on peut les remettre à plat et on peut réfléchir autrement. Ce petit schéma aussi d'Andrea Brandi que j'aime beaucoup parce qu'on ne sait pas si on parle d'une maison, on ne sait pas s'il parle d'une ville. C'est trop grand pour être une maison, trop petit pour être une ville. Finalement, c'est une espèce de communauté. On pourrait dire un foyer pour ne pas dire une famille, mais c'est peut-être lié au territoire d'attachement dont je vous parlais, peut-être pas, peut-être que c'est vraiment des connexions spatiales. En tout cas, il y a des gens dedans, il y a des gens dehors, il y a des gens qui sont connectés par le menton, d'autres qui sont liés par des bulles, d'autres qui ont des flèches, donc ils doivent être un peu loin, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des morts aussi, il y a une croix. Voilà, c'est tout ça, le logement, et c'est ce qui fait qu'on peut, faire évoluer nos modèles. C'est pourquoi on a beaucoup de projets qui travaillent sur la question de la modularité, donc travaillent sur la pièce, mais pas seulement. Voilà, pour que les choses puissent évoluer. Et pour ça, je vais vous l'illustrer par le projet des 32 logements cathédrales à Dijon. Alors, c'était un projet qui était intéressant parce que donc on était dans un quartier dessiné par les urbanistes Anma et il y avait une petite ligne qui était très chouette qui disait que chaque architecte devait sanctuariser une partie de sa parcelle pour que le quartier puisse se densifier, pour faire en sorte que de nouveaux logements plus tard puissent se construire en fait sur les mêmes parcelles. Donc c'était une espèce de densification possible du quartier, mais nous on se trouvait au fin fond de la ZAC, dans la petite parcelle qui est triangulaire là, et géométriquement c'était pas possible, on n'arrivait pas à réserver une place. Voilà, et on tenait absolument à répondre à cette proposition qu'on trouvait intéressante. Donc plutôt que d'avoir une espèce de fantôme de bâtiment qui arriverait peut-être un jour, on s'est dit que cette densification, peut-être qu'on pourrait la donner à chaque logement. De telle manière, c'est ce qui a fabriqué en fait ce projet. Vous voyez chaque séjour qui a une double hauteur. Tout séjour a une partie de double hauteur. Pourquoi ? En fait, pour que on puisse à l'avenir, maintenant ou plus tard, construire des mezzanines pour les logements, ou qu'on puisse réhabiliter l'immeuble en comblant les parties de plancher, en reconfigurant et en multipliant le nombre de logements. On a fait ça pourquoi ? Surtout pour faire en sorte que cette qualité fantôme puisse être donnée en fait à chaque logement tout de suite. Et donc on a assemblé trois typologies, un collectif, des petites maisons et un plot, et partagent toute cette même qualité du T1 au T5 avec ce séjour en double hauteur qui s'organise selon des quinconces en fait, d'étage en étage. Et puis il y avait une petite ligne qui disait qu'on devait faire des toits pentueux sauf si on les rendait accessibles, donc on les a rendus accessibles. Et c'est une terrasse partagée. Évidemment, ces doubles hauteurs, c'est comme si vous passiez un gâteau au four, c'est-à-dire que le programme, et tout à coup, il fait que la volumétrie, elle explose complètement. Et évidemment, il n'y avait pas de ligne là-dessus dans le budget. Donc, tout le projet, en fait, tire ses qualités de cette économie de moyens, par ailleurs. Et voilà, donc, c'est tire son identité aussi de ça. C'est un bâtiment très simple, où on pousse la porte et on embrasse du regard comme ça tout l'immeuble. Et on a l'impression de rentrer dans une espèce de grande salle de sport. C'est assez. J'imagine qu'on s'y sent assez libre. Et peut-être l'espace, en fait, il a une certaine complexité puisque c'est une grande pièce traversante avec une cuisine-bar au centre qui dégage côté coursive un premier espace, puis de l'autre côté de la cuisine deux espaces, un en simple hauteur et un en double hauteur. Donc ça, moi j'ai pas d'idée de la manière dont ils vont habiter le lieu, mais c'est une manière aussi de déployer un dispositif spatial. La cuisine bar que vous voyez là, je vais vous présenter maintenant le projet que j'appelle Prisme, projet pour Paris Habitat dans le 13e arrondissement qu'on a livré l'année dernière. Donc c'est un projet qui se trouve boulevard Auriol, dans le 13e arrondissement. Et là, on a travaillé à trois architectes, je ne sais pas s'ils sont là, avec Abinal Héropars et JKLN, et on a formé trois prismes. JKLN travaillant en continuité de la barre existante, donc chacun s'est adressé à ses voisins, donc elle avec la barre existante, et moi dans le prisme que vous voyez à droite, en bas, en préservant une cour d'école qui est au pied du bâtiment, donc je vous raconterai un petit peu plus tard, et Abinal Héropars se situant entre nous et donc développant une série de gradins qui mettent en rapport nos bâtiments les uns avec les autres et fait entrer la lumière dans le grand jardin central. Alors nous, en fait, on avait donc ce prisme à six facettes qui fait l'angle que vous voyez là sur le côté. Et chacun a profité, donc Abinal Héropars ont profité de ce grand gradinage pour s'adresser à chacune de nous deux, Jasmine Kenich-Lenoine et moi. Et à l'agence, nous, on a ciselé le bâtiment de telle manière à ce que la lumière, à ne pas porter ombre sur la cour de l'école, finalement. Donc on a ciselé comme ça, par une série de terrasses extérieures, le bâtiment à l'angle. Et puis, ces six facettes, en fait, se tournent vers des environnements, des ambiances urbaines vraiment très différentes, avec des contraintes très différentes d'ensoleillement, mais aussi des contraintes acoustiques, puisqu'on est au droit de la ligne aérienne du métro. Voilà, donc on a déployé un bâtiment, comme ça, un prisme à six facettes qui organise les logements de telle manière à ce qu'ils aient le plus possible de ces conditions urbaines. Voilà, donc vous voyez ici, chaque logement a un espace extérieur avec des toitures terrasses, des terrasses en partie haute. En haut rouge, tout là-haut, c'est un espace partagé. Pareil, hein, c'est l'espace le plus privilégié de l'immeuble, celui qui a les plus grandes vues. Et puis, dans le bâtiment, voilà, on a fabriqué ces loggias qui permettent justement à chaque facette d'exprimer de profiter de ce microclimat, de ce climat urbain ou de ce microclimat d'ensoleillement. Et la particularité de ce prisme, c'est qu'il est extrêmement épais et on sait la difficulté de pouvoir apporter la lumière jusqu'à la profondeur d'un plot. Mais ici, il fait jusqu'à 20 mètres d'épaisseur. Le voilà. Dans ces conditions urbaines. Et donc les loggias sont aussi des canons de lumière en fait qui permettent aux cuisines qui auraient dû se trouver en fond de plan d'être éclairées en façade. Et donc on a développé une espèce de typologie un peu marrante, de typologie en forme de papillon ou en tout cas bicéphale, je ne sais pas comment la dire, où le séjour en fait se trouve pour partie à l'angle du bâtiment ou on profite d'une des arêtes du bâtiment. Et une autre partie qui est mixte en fait entre coin repas et cuisine, avec ici trois versions que vous pouvez voir pour que les choses puissent être évolutives dans la journée, mais aussi pour que chaque habitant puisse avoir le rapport qu'il souhaite entre le coin repas et la cuisine. On a trois coulissants qui peuvent s'ouvrir, se fermer, se bloquer dans trois positions différentes. Et le séjour papillon. Donc on a une espèce de démultiplication des conditions urbaines comme ça et des climats qui sont différents avec un plan qui est finalement assez, un logement qui est assez, assez changeant, assez multiple tout au long de la journée. Les motifs. Alors les motifs, le mot motif, ça peut être le motif d'une intrigue, ça peut être, en tout cas, motif, ça a à voir avec le mouvement, c'est ce qui nous meut, nous motive. Mais c'est aussi dans une composition musicale le plus petit élément qui va assurer l'unité et la vision de l'ensemble, en fait. Voilà, nous, à l'agence, on fait parfois des grands papiers peints, qui sont des espèces on essaye de tisser, en fait, de combiner tous ces petits espaces qu'on a dans le programme pour former finalement quelque chose de plus grand. Vous vous souvenez de Lina Bobardi, nous on n'a pas cette dimension de pièce, donc il va falloir qu'avec toutes ces pièces, toutes ces combinaisons à fabriquer, on puisse construire quelque chose qui dépasse l'échelle même du petit point de la pièce. Voilà, elles sont toujours... elles entrelacent en fait des espaces intimes, des espaces partagés, des espaces publics, des espaces intérieurs, des espaces extérieurs. En fait, c'est une question de géométrie que je pose là, c'est une question de composition en fait. Faire en sorte qu'un tout petit principe se déploie le plus fortement possible dans le projet. En fait, le motif, c'est la façon de mettre en relation des petits éléments individuels dans la construction de quelque chose qui est plus grand, qui est plus collectif. Voilà, c'est le premier outil de l'architecte, la géométrie, et encore plus dans le logement. Et la composition du plan, elle est vraiment déterminante. Voilà, donc on essaye de porter ça le plus loin possible en fait, dans notre travail. En fait, on crée des espèces d'environnement, de métabolisme, comme des espèces d'organismes vivants intimement liés à l'environnement dans lequel ils agissent. Voilà, je vais vous présenter quelques-uns d'entre eux. Très rapidement, mais c'est juste un détail d'un projet. Un projet de 117 logements en cœur d'îlot, dans un quartier à Lille qui est composé de petites courées. Donc c'est des petits mondes, de petites maisons jointives avec une grande allée qui les dessert et qui est commune, dans lequel tout le monde mange. C'est assez convivial, c'est assez chouette. Et voilà, on a décidé de fabriquer une espèce de grande nappe comme ça, composée d'un motif, que je vais vous expliquer, de quatre logements à patio, dans lesquels on rentre par un patio intime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisin qui regarde sur ce patio. Et le séjour cuisine, en fait, est une seule et unique pièce. Le séjour donne sur la pièce intime, sur l'espace, sur le patio intime, et la cuisine donne sur un autre jardin qui est un jardin collectif commun à quatre logements. Vous voyez, si vous regardez au centre, vous avez les quatre cuisines, les quatre logements qui se connectent à cet endroit. Et voilà, je pense que le prochain thème à l'agence, on va faire quelque chose autour de la cuisine, parce que c'est voilà, on a plein de projets qui travaillent sur ce sujet. Et la cuisine, ben, c'est le repas, c'est la convivialité, c'est aussi le lieu de la transformation, de la fabrication. C'est probablement le lieu qui nous permet en fait, de peut-être le mieux de connecter les voisins entre eux, autour de la cuisine. On ne se protège pas de l'intimité d'une cuisine. Et puis je vais vous parler de mon premier projet au sein de Boscope il y a pas mal d'années, à Nantes. Voilà, sur lequel on a développé ce principe. En rouge sont les espaces publics, en rose les espaces privés et en rose très pâle les espaces communs. Donc on est dans un espace, vous allez voir, les logements ne se situent pas dans un seul intervalle, mais dans deux intervalles. Donc le logement est en relation directe avec espace public, espace commun et espace privé. Voilà, donc vous allez voir, c'est des petits bâtiments parallèles, très fins. Alors, un des objectifs du projet, c'était de construire une opération dense avec la qualité comparable à la maison individuelle. Vous voyez en bleu les maisons pavillonnaires voisines et notre opération en rose. Donc, c'est la même densité, c'est 55 logements à chaque fois. Et on pourrait penser que ces 10 petits bâtiments sont séparés par l'extérieur, alors que l'extérieur, c'est une forme de connecteur, en fait. Puisque dans ce projet, on travaillait sur cette idée de pièce de taille identique. En l'occurrence, là, elle ne fait pas 3,60 de côté, mais plutôt 4 mètres de côté. La cuisine est dans une des pièces. Et ces pièces s'articulent autour d'une pièce extérieure qui est un jardin. Et l'une des pièces de cette collection se situe de l'autre côté du jardin. Ce qui est assez étonnant, puisqu'elle est complètement déconnectée. On passe par dehors pour aller dans cette pièce, ce qui est assez joli et ce qui vous fait peut-être repenser au petit dessin d'Andrea Branzi avec cette maisonnée parce que peut-être que dans un foyer, en fait, on a aussi besoin parfois d'être ailleurs chez soi. En tout cas, il peut y avoir des choses qui soient déconnectées ou des, je sais pas, un ado qui a envie d'avoir une chambre un peu à part, etc. Moi, j'ai eu plein de retours et d'histoires autour de la manière dont ça a été habité, mais en tout cas, c'est un lieu en face, en vis-à-vis. Et donc, les logements sont composés d'une partie principale en duplex. Vous voyez quatre pièces d'un côté. Et d'une pièce disposée de l'autre côté, ce qui permet en fait d'organiser l'ensemble du projet avec ses vis-à-vis qui ne sont pas des difficultés, mais au contraire un confort et une relation du logement à cette pièce en face. En fait, ces 10 bâtiments, c'est 5 paires, vous voyez, 5 paires qui s'organisent autour d'un jardin central. Donc on habite toujours d'un côté, principalement d'un côté de ce jardin. Et on a une des pièces qui est située de l'autre côté du jardin. Et entre ces paires, on a des venelles publiques qui permettent de traverser l'îlot, faire en sorte que les maisons que vous voyez en bleu tout à l'heure puissent traverser l'îlot, qu'ils soient complètement poreux pour qu'ils puissent profiter du jardin qui est de l'autre côté de notre opération. Et puis, entre d'autres paires, on a des espaces, des cours communes. En fait, c'était des disponibilités qui nous sont arrivées dans le projet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et finalement, ça a été l'opportunité, parce qu'on s'est dit, à un moment donné, on essaye d'avoir la même qualité que le logement individuel. On essaye de protéger tous les vis-à-vis des voisins sur les logements privatifs, etc. Et finalement, quel est l'intérêt d'être tous les uns sur les autres comme ça, emboîtés, parce que c'est un Rubik's Cube assez incroyable, de logements tête bêche, parce que je ne vous explique pas, mais il y en a aussi dessus, enfin voilà, il y a plein de typologies. Donc régler cette intimité a été extrêmement exigeant. Et en même temps, ces espaces nous sont arrivés et on s'est dit, tiens, ben, peut-être que c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut avoir des lieux communs qui connectent en plus les logements entre eux. Et donc, ces 4 portes secrètes qui donnent sur 4 logements différents, qui ne rentrent pas chez eux de la même manière, qui normalement ne se croiseraient jamais. Vous voyez ici, par exemple, en bas à droite, celui qui est en violet foncé, il rentre chez lui par la rue qui est à droite. Et il partage avec Bleu Marine une cour. Et puis, Monsieur Bleu Marine et Monsieur Bleu Turquoise, en fait, sont voisins de palier, puisqu'ils rentrent chez eux dans 2 jardins qui se font face. Monsieur Bleu et Monsieur Madame Vert, je sais pas, ils sont disputés, soit ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais en tout cas, il y a 2 balcons qui surplombent l'espace public et qui sont vraiment quasi connectés l'un à l'autre, qui leur permet de se rencontrer. Vert et jaune sont voisins de palier, etc., etc. Donc, de proche en proche, en fait, il y a une espèce de grande percolation à travers le bâtiment. Et voilà, les voisinages se font de la sorte. Venelle publique. Et puis ici, les passages en fait, qui traversent bâtiment, jardin, bâtiment, cour commune, bâtiment, jardin, bâtiment, venelle, bâtiment, etc. Sur les motifs, je voulais vous présenter ce projet qui est un projet perdu, mais qu'on avait adoré travailler. On s'était beaucoup amusé. On a reçu un programme, on avait candidaté pour des logements étudiants, et puis on ne s'était pas rendu compte du tout de la taille du programme, et nous est arrivé un programme de 1049 lits étudiants. Et on s'est dit, waouh, 1049, no stop city, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, parce que nous, on n'arrête pas de faire des projets de 30 logements, 40 logements, etc. Donc on a travaillé sur un grand papier peint, comme ça, que je vais vous expliquer. Donc le site, vous reconnaissez le bâtiment de Oma, à droite du grand espace vert. Je n'ai pas de flèche, donc je vous l'écris comme ça. Nous, on a l'îlot de l'autre côté du jardin, le grand îlot avec plein de... Donc ça, c'était la fiche urbaine. Donc l'idée, c'était de faire 20 bâtiments de 50 chambres étudiants. Et nous, on s'est dit qu'on allait s'ennuyer parce qu'on sait ce que c'est à peu près un bâtiment de 50 logements étudiants. Et on avait vraiment envie d'expérimenter l'idée que ce soit un seul et unique objet de 1000 chambres pour explorer cette question, qu'est-ce que c'est qu'habiter à 1000 ? Cette question de la multitude, elle est intéressante. Voilà, donc c'est cette espèce de grande nappe qui abrite, qui est surpilotée. En fait, c'est deux niveaux, c'est un bâtiment couché, une galette de deux niveaux sur pilotis, avec un grand forum, un grand espace public à rez-de-chaussée. Et cette nappe, en fait, elle est perforée de plein de patios qui apportent l'éclairage aux logements qui composent la galette, mais aussi à ce rez-de-chaussée, qui est un grand rez-de-chaussée public et collectif. Et on s'est demandé comment on habite seul, soit là, dans sa chambre, à 1000. Et donc peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'appartenir à plein de communautés, en fait. Peut-être que ça aussi, c'est un sentiment de liberté, de pouvoir habiter avec un tel et aussi avec d'autres. Et donc dans le deuxième schéma, vous voyez que chacun habite dans une espèce de petit plot, en fait, une unité desservie par un escalier, mais on habite aussi en même temps avec une autre communauté, une communauté qui s'organise autour de patios. Voilà, donc ça c'est ce grand tissu, quand je dis plus papier peint, je dis tissu parce qu'à un moment donné il faut faire des ourlets, il faut faire des points, il faut, voilà, donc c'est tout un travail de couture finalement. Et donc il y a trois types de patios. Il y avait un programme assez rigolo avec des communautés d'étudiants. Il y avait les marmottes, il y avait les tanguis, enfin je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait ceux qui avaient besoin de calme, il y avait ceux qui avaient besoin de, au contraire, qui étaient là, qui étaient assez festifs, etc. Et donc, dans chaque petit plot, vous voyez, en fait, on peut lire ça comme une grande nappe, mais finalement, c'est des petits plots à coller, hein, combiner les uns avec les autres. Et donc, dans chaque plot, on avait ces trois types d'étudiants. C'est-à-dire que quand on monte l'escalier et qu'on rencontre ses voisins, on se connaît tous, aussi différents que l'on soit. Mais en même temps, quand on rentre dans sa chambre, on donne sur un patio qui est habité par ses semblables, en tout cas ses pairs. Voilà, les festifs sont avec les festifs, ceux qui ont besoin de calme avec ceux qui ont besoin de calme, etc. Ce que vous voyez en rouge aussi, c'est le patio des festifs. En rouge, c'est la cage d'escalier qui dessert donc les petites communautés et qui est ouverte sur le patio festif. Et c'est un lieu de travail en commun. Et puis sur le pourtour, évidemment, on a une relation comme ça avec tout le paysage lointain, toute cette collection, toute cette ourlée de logements. Et ça, c'était dans le programme, c'était des logements en grappe. Donc c'est comme un grand pourtour qui est découpé en grappes de 8 ou 10 et elles sont accessibles par les mêmes cages d'escalier. Donc elles connaissent toutes aussi la vie d'un patio, le patio festif. Il y a un grand trou parce qu'en fait il y avait un bâtiment qu'il fallait conserver. Donc on s'est dit, on fait un trou. Voilà, ça c'est le feuilletage. En bas, c'est le grand forum. Les patios calmes, pour les étudiants calmes, en fait, ils tombent jusqu'au sol. Et c'est donc les chambres donnent à l'intérieur des patios. Et au dos des chambres, on a les petits halls qui, en double hauteur qui donnent accès. Voilà, une espèce de petite fleur comme ça. En fait, les chambres donnent à l'intérieur. Et l'extra-dose de ces fleurs sont les halls d'accès aux étages. Voilà, donc ça forme. Une seule et unique architecture avec un grand espace public en bas dans lequel on est ponctué comme ça de patios qui apportent la lumière mais qui aussi permettent à chaque chambre d'être en relation avec ce grand espace public, donc d'être avec ses semblables autour de son patio mais aussi avec le public et aussi avec les autres, en tout cas les autres types d'étudiants, si on dit qu'ils sont classables, autour de sa cage d'escalier et de son espace de travail. Voilà, les halls étaient en double hauteur, et on avait mis tous les espaces de travail en mezzanine, c'est les petites bandes vitrées que vous voyez là, tous les communs, les machines à laver, etc. Je crois que c'est le dernier thème, interprétation. En fait, à l'agence, on aime que les projets soient interprétables par les habitants. En fait, on les souhaite émancipatoires, ouverts. On a envie de faire des projets un peu fertiles, en tout cas qui soient bouleversés par l'imagination au quotidien des habitants. On pense que l'imagination, elle n'est pas réservée aux architectes, en fait, et que l'imagination habitante, elle est au moins aussi forte que la nôtre. Voilà, et dès qu'une opération est livrée, en fait, quelques années plus tard, on va la visiter, on rencontre les habitants et on fait ces petits dessins qui nous permettent, voilà, de se rendre compte de la manière dont la vie prend ou pas dans les lieux. On est parfois un peu déçu, parfois on est hyper étonné, agréablement surpris, c'est varié. Ici, par exemple, à Nantes, on s'est rendu compte que les terrasses communes, en fait, il y a 8 terrasses communes, je crois, 8 ou 10. Il y avait des terrasses communes qui n'étaient pas très utilisées et d'autres qui étaient très utilisées. Donc voilà, moi j'étais allée faire une petite enquête. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un choix qu'on avait fait, nous, architectes. C'était tombé comme ça dans la combinatoire de la fabrication du projet. On s'était rendu compte que ces terrasses-là, en fait, elles connectaient les cuisines. Que derrière les portes, en fait, c'était les cuisines. Donc, par exemple, à l'aune de cette découverte-là, on a fabriqué une série de projets autour de cette capacité de la cuisine à connecter, en tout cas, la convivialité entre les voisins. Donc, on prend le son après la construction, deux ans après la construction, parce qu'il faut quand même que habiter, ça prend un petit peu de temps. Il faut que les choses commencent à se déranger un petit peu, à se salir, pour qu'on puisse voir vraiment la manière dont les choses se développent. Voilà, donc on a appris ce qu'on avait fait de la pièce en face, etc. Et ça nous permet, entre autres, de travailler sur les projets combinatoires et la manière dont on peut, nous, les imaginer, tout en sachant que les habitants feront totalement différemment, ce qui est assez génial. Je vous parlais d'un projet d'habitat participatif dans le 20e, qu'on a perdu, qu'on a beaucoup aimé dans l'aventure du projet, plus encore que le projet lui-même. On l'appelait OUAPO, en référence à l'Oulipo, au mouvement Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Ici, c'est ouvroir d'habitat potentiel. On a fait une espèce de grande boîte à outils en bois, desservie par coursive pour que d'emblée tous les logements soient traversants. Voilà, composé d'un poteau poutre en bois avec des pièces de taille carrée. Allez, on a mis ça, on s'est dit, on va rejouer cette partie. Et on a imaginé cette grande pyramide des typologies. Vous savez, nous, on reçoit toujours des types 1, type 2, type 3, type 4, type 5 à assembler. Finalement, je ne sais pas à quoi ça correspond encore aujourd'hui. Donc, on a fait une pyramide beaucoup plus fine et on s'est retrouvé avec 11 types possibles pour être au plus près des budgets des habitants, mais aussi de leurs usages, leur composition de famille, de foyer, etc. Et le temps du projet, on s'est aventuré en fait à tester cette structure. Et on a composé comme ça, on s'est arrêté à 132 logements, je crois. Mais on a composé, on a testé différentes configurations, du T11 au T1, enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, et on s'est rendu compte qu'une multitude de configurations pouvait être possible. On s'est arrêté à 132 parce que c'était le rendu, mais parallèlement au projet, voilà, il y avait une personne qui tentait des typologies. Et au passage, on en a trouvé des totalement absurdes et d'autres totalement enthousiasmantes qu'on n'aurait jamais composées nous-mêmes sans cette mathématique. Voilà, je vous parlais d'Oulipo, mais évidemment, en arrière-plan dans mon cerveau, on avait 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, qui est une œuvre extraordinaire, où en fait, vous le connaissez sûrement, mais l'édition est magnifique, puisqu'elle permet à tout lecteur de composer le poème de son choix à partir des vers de Queneau, et donc de tourner les languettes et de composer à partir d'une proposition faite par Queneau. Et il y a 100 000 milliards de possibilités. Je ne sais pas si les habitants de Montreuil sont là, mais ce serait super. Juste, interprétation, c'est aussi la question de comment le projet peut être contaminé. Moi, ça m'intéresse, ça, que le projet soit contaminé par les habitants, par les ouvriers, etc. J'ai fait sauter, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler d'autre chose, des ouvriers. Donc ça, c'est un petit détail, mais un jour, sur un chantier, En l'occurrence, c'était celui de l'île Machu Picchu. Et c'était un projet en conception-construction avec une grande entreprise de construction du béton. Et il m'avait promis que les bétons sortiraient parfaitement et que j'avais pas à m'inquiéter de ça, sauf que les bétons sont sortis en plein hiver, ce qui n'est pas génial pour avoir des finitions parfaites. Et donc, il y avait beaucoup d'épaufrures. Vous savez, quand on enlève les banches, dans les trous de banches, parfois, il y en a qui éclatent. Et donc, il fallait faire des reprises. Et moi, je ne voulais pas qu'on ajoute de matière, parce que vu le nombre de reprises qu'il allait falloir faire, un ouvrier normalement constitué ne fait pas 50 fois bien la même chose. Et c'est un peu idiot comme travail. Donc, l'entreprise m'avait demandé comment je voulais faire les finitions, etc. Quels détails, madame l'architecte, vous voudriez ? Et moi, j'avais très envie d'échapper à cette question. J'avais envie de chercher la manière dont les ouvriers pouvaient travailler, en tout cas montrer leur travail. Et finalement, j'aurais fait une proposition un peu idiote au départ, c'était de leur dire, écoutez, il faut que ça se voit, il faut que ce soit propre, donc vous êtes libre, en fait, vous mettez 4 scotchs autour de chaque trou de banche. Et vous faites les reprises, puis vous enlevez les scotchs, et puis voilà. Et puis, donc ils ont fait ça. Puis après, j'ai dit, mais vous pouvez un peu quand même, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, vous pouvez faire différemment, etc. Mais en fait, je me départissais d'une responsabilité qui est la mienne, en fait, qui est de faire ces choix-là. Et eux, ils ne s'en sentaient pas à la liberté, en fait, de le faire. Et donc, j'ai récolté en réunion de chantier la silhouette de leurs mains. Chacun, là, c'était donc il y a les bétonneux, il y a les plâtriers, il y a tous les ouvriers en fait. On avait une petite pile comme ça et à l'agence on a fabriqué en fait des pochoirs. On les a ramenés sur le chantier et donc les ouvriers ont appliqué ces pochoirs pour cacher les défauts, ce qui est assez littéral hein, comme idée. Hein, c'est que pour cacher quelque chose, on met la main dessus, mais c'est aussi bien sûr on s'en rappelait. Espèce de proto-dessin, celui des mains sur la caverne. Donc c'est assez joli, c'est assez discret en fait. Mais parfois il y a un petit rayon de soleil ou parfois il est devant notre nez quand on prend une coursive et donc on découvre comme ça les mains des ouvriers. Voilà, je ne vous ai pas parlé directement de liberté mais quand même un peu et je voulais terminer par René Char à qui je suis toujours fidèle dans mes conférences. Voilà. Parce que ces deux lignes en fait, me suivent depuis que je suis architecte. René Char, dans les feuilles d'hypnose, donc à l'époque de la Résistance, écrivait ceci. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Voilà, il y aurait beaucoup à parler de cela. Il y a la question du repas, d'être pris en commun, il y a la liberté, s'asseoir. La place demeure vide, on pourrait dire que c'est triste, mais ce qui est assez joli, c'est qu'il dit « mais le couvert reste mis ». Je pense que peut-être qu'un de nos rôles, c'est de mettre le couvert, c'est de disposer les choses, que c'est ça, pour moi, être architecte, disposer les choses, et en même temps, inviter la liberté à s'asseoir, c'est-à-dire... être dans cette disposition, déjà à soi-même. Voilà, merci.
Vous en portez que deux.
Vous,
j'avoue tout d'abord que ce ne sera pas une question, je dois dire toute mon admiration. Je suis architecte, bien sûr, comme beaucoup d'ici, mais je suis un vieux monsieur. Et quand je pense votre travail à l'aune de ce que fut ma pauvre carrière, je vous dis bravo.
Merci.
Et ça... Alors maintenant, deux questions, puisque il y a peut-être d'autres personnes ici qui voudraient en donner, s'en permettre une. Alors, est-ce que l'organisation permettra qu'il y ait trois questions ? Peut-être quand même. Mais moi, j'en voudrais deux quand même. J'aimerais que vous nous parliez de vous. Parce que ce que vous nous avez présenté, ce n'est pas n'importe quoi, et ça tient très certainement à un parcours qui vous est spécifique. Et moi, je ne vous connais pas, j'ai envie de vous connaître. Donc ma question, ce sera, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Où voulez-vous aller ? C'est ma première question. Wow. L'organisateur de la soirée nous dit qu'il y aura droit à une troisième question, donc je pose la seconde.
Ça fait trois.
Bah déjà, je pense vous avoir beaucoup parlé de moi.
Non,
en fait.
Pardonnez-moi. Je dis tout de suite ma deuxième question.
Ah non, c'était les trois, là. D'où
Mais non.
Où allez-vous ?
Ce que je viens de dire, c'est une seule.
Ah la vache.
Là, la deuxième question, elle est toute simple. Vous nous avez parlé beaucoup de logement, bien sûr. Vous avez oublié de nous dire dans quelques contextes administratif et financier, vous avez œuvré. Est-ce que tout ceci, c'est du logement social ou autre ? Bon, voilà, la seconde question est peut-être plus simple que la première.
Je vais commencer par la deuxième, alors. Je crois que tous les projets que je vous ai montrés sont des projets de logements sociaux, à l'exception des 1000 chambres étudiants. Et ça fait vraiment partie de mon parcours, en fait, le fait d'avoir pu commencer par travailler avec des bailleurs sociaux, en fait, qui peuvent entendre, en fait, cette envie de... Voilà, de libérer des usages, de mettre en place des partages, etc., ce qui est moins évident dans la promotion immobilière. Mais en même temps, je m'y colle en ce moment, parce que je pense qu'il faut, il faut changer le logement en général. Donc le logement social est aussi la promotion. Mais on arrive à... Enfin, les projets sont en train de se faire, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais on y arrive à faire des belles choses aussi, finalement. Voilà pour la deuxième question. Pour la première, je pense vous avoir beaucoup parlé de moi, en fait, à travers la conférence. Je viens de où ? Je vais où ? Je ne sais pas. Moi, c'est les projets qui m'emmènent. C'est à chaque fois une aventure. Je dis souvent que les architectes, ils sont à la fois têtus et opportunistes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont têtus. Moi, j'ai mes cinq axes, là. J'embête tout le monde à l'agence avec mes cinq axes. Mais en réalité, les projets, c'est juste des opportunités pour les re-questionner, pour avancer dessus. Donc, je me projette pas à l'agence, sauf à travers les projets. J'ai envie de dire, moi, j'ai juste envie d'avoir une chouette équipe. J'ai envie qu'on soit tous autour d'une table, pas plus, pas moins. Et qu'on continue à faire les projets comme ça. Mais voilà, c'est pas à pas, en fait, projet par projet. Ce que je peux peut-être dire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'ai décidé de m'atteler exclusivement à la question de l'habitat, de rien faire d'autre, de vraiment me pencher là-dessus. Et que finalement, ça construit, malgré moi, en fait, une forme de point de vue, une forme de panorama, de manière de penser le projet. Et que c'est pas, ça peut ne pas être limité à la question de l'habitat. Je pense qu'on peut travailler avec ce regard-là sur des équipements, sur des questions scolaires, sur plein d'autres choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps que moi, j'ouvre un peu c'est pas une spécialité. Je vous ai dit, moi, le logement, c'est un moyen de réfléchir, mais c'est pas un but. Voilà.
Quelle est votre formation ?
Je suis architecte, je suis formée à Lille, mais j'ai vécu toute petite à Villeneuve-d'Ascq, qui est une ville nouvelle, et où il y a, moi, mes copines, elles habitaient chez Josic, donc j'ai connu cette époque où en fait, moi, j'ai pas mes repères, ils sont là en fait. Moi, j'allais chez mes copines. Il y en avait une, elle avait un appart avec un séjour en triplex, trois hauteurs superposées. Et j'en avais une autre qui habitait dans une pyramide d'Andro et Para, avec des logements où on pénétrait par le cœur. Et puis on avait toutes les terrasses panoramiques. Puis après, moi, je suis fille d'architecte, donc j'ai fait toutes mes études à Lille. Et j'ai aussi vécu maison et agence quasi confondues. Donc j'ai aussi cette connaissance. Je sais que ce métier-là est une passion et que c'est aussi un métier très difficile, très dur. Voilà. Avez-vous, pardon ?
D'autres manières de réaliser votre vocation d'architecte que le projet ?
Ben, j'enseigne.
Parlez-nous de votre enseignement.
Ce n'était pas le contrat de départ, donc je vais la défendre un petit peu. Et si tu veux t'arrêter, Sophie, on peut s'arrêter quand tu veux.
Ouais, je veux.
On s'arrête. Merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre tous les deux.
Merci.